Merci Seigneur pour ce chant. Ce chant présuppose quelque chose. Il présuppose que l'on croit que Jésus est ressuscité. Vous êtes d'accord? Parce que si on dit « il te tend la main », ça veut dire qu'on croit que Jésus est là au milieu de nous et que par son esprit, il est là, présent, et donc qu'il est ressuscité auparavant, forcément. C'est ce sur quoi je voudrais vous apporter le message ce soir. Dans Actes chapitre 17, nous voyons ce premier verset d'introduction qui explique justement pourquoi est-ce que Jésus est ressuscité. Acte 17, verset 30, c'est Paul qui s'adresse à des personnes qui se trouvent dans une sorte d'amphithéâtre, c'est devant les Grecs, des philosophes qui sont là, il y a des épicuriens, il y a des stoïciens, il y a toutes sortes de penseurs qui sont là, et Paul leur donne cette parole en particulier, Acte chapitre 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. » Vous avez vu pourquoi est-ce que Dieu a ressuscité des morts Jésus? Pour que ça soit une preuve que c'est lui qui va juger les hommes. Et qu'ils ont, donc pour pouvoir être jugés, il faut qu'ils passent par leur repentance pour pouvoir être bien jugés, même s'ils seront bien jugés s'ils n'y passent pas, mais pour qu'il y ait un bon résultat, on va dire plutôt, qu'ils soient justifiés, il faut qu'ils passent par leur repentance. Voilà, Jésus est ressuscité des morts. C'est quelque chose dans lequel on a besoin de placer notre foi. Trop souvent, on a une foi qui est un petit peu une croyance un peu floue, un peu confuse. Et notre foi doit être appuyée sur des choses comme ça, des vérités que Jésus est ressuscité. J'écoutais un message qui exprimait plusieurs preuves, entre guillemets, que Jésus était ressuscité. Et j'ai trouvé intéressant de vous donner quelques aspects. Par exemple, il y a cette pensée qui est là, qui existait déjà au temps des évangiles, que les apôtres avaient volé le corps de Jésus. Vous savez, les pharisiens, quand ils ont vu le tombeau vide, ils ont eu peur, ils ont dit « mais tout le monde va croire qu'il est vraiment ressuscité. Vite, on va faire courir un faux bruit. » Et donc, ils ont payé les soldats pour qu'ils fassent courir le bruit que les disciples avaient volé le corps de Jésus. Et ce bruit, il est encore aujourd'hui. Parce que les gens croient que Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Ils croient qu'il y a une affaire un peu bizarre qui s'est passée derrière cette histoire. Et il y en a qui pensent que justement les disciples se sont réunis ensemble et qu'ils ont mis au point une histoire totalement abracadabresque où ils disaient que Jésus était ressuscité et ils ont mis au point toutes sortes de choses. Mais c'était basé sur un mensonge. Sauf que le problème, il y a beaucoup de problèmes quand on croit que ça c'est vrai. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a déjà le problème que les premières personnes qui attestent que Jésus est ressuscité, c'est des femmes. Alors, il y en a qui ont dit, certaines personnes que je qualifierais d'un peu macho, ils ont dit, c'était normal pour que ça se diffuse plus vite. Si c'est des femmes, au moins la nouvelle va être vite connue partout. Bon, ça, je mets une réserve dessus, cette pensée, même s'il y a un peu de vérité. Hein. Oui. Bon, Nicole est d'accord. Mais en tout cas, faut bien comprendre le contexte. À l'époque, la femme n'a pas la place que la femme a aujourd'hui dans notre société. À l'époque, une femme, elle n'était même pas demandée de venir donner son témoignage pour un jugement parce qu'on n'en tenait pas compte. Donc le fait que les évangélistes, ceux qui ont écrit les évangiles, ils fassent bien la peine de noter que c'est les femmes qui ont les premières eu ce témoignage que Jésus est ressuscité, mais ça n'allait pas dans leur sens finalement. D'un point de vue humain, ce n'était pas logique qu'ils insistent sur le fait que c'est des femmes qui ont reçu la nouvelle en premier. Et après, la deuxième chose, c'est que c'est les disciples qui ont assisté à la résurrection, eh bien on remarque qu'ils étaient pleins de plaintes, ils étaient enfermés à double tour, on remarque les faiblesses de ces personnes. Est-ce que les gens qui voulaient montrer que leur soi-disant mensonge était vrai allaient mettre en évidence leurs défauts? Ça paraît quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis en évidence leurs défauts? Parce que leurs défauts, ils étaient vrais. Parce que c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Il y en a qui remettent en cause la résurrection, parce que même au point de vue des évangiles, on dirait qu'il y a des contradictions. Des fois on parle de deux anges, des fois on parle d'un ange, des fois on parle qu'il est assis dans le tombeau, des fois il est debout, et les gens ils mettent toutes sortes d'hypothèses bizarres. Ben vous voyez, ça prouve que Jésus n'est pas ressuscité. Ça ne prouve rien du tout. Ça prouve qu'il y avait différents témoins de la même scène. Si vous demandez à des policiers de vous parler de leur expérience, de leur travail, quand ils demandent pour un accident, ils vont vous dire que des fois, il y a des personnes qui insistent sur tel détail, et la personne à côté qui a assisté à la même situation, elle insiste sur un autre détail. Mais ce n'est pas pour autant que l'accident il a eu lieu, par exemple. Ce n'est pas parce que les évangiles disent de façon différente quelque chose que le message est faux en lui-même. Ils disent de toute façon, les quatre évangiles disent la même chose, Jésus est ressuscité. Et ce n'est pas une preuve que c'est contradictoire, c'est plutôt une preuve de véracité. C'est des gens qui l'ont dit de tout leur cœur. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, il s'est servi de cette faiblesse, de cette humanité, pour passer son message divin aux hommes, Jésus est ressuscité. Et pour moi, la plus grande preuve de toutes, il y en aurait d'autres à dire, ça serait intéressant de l'étudier un jour, mais pour moi, la plus grande preuve que Jésus est ressuscité, c'est ceux qui croient. C'est nous qui avons cru. Parce qu'on a expérimenté dans notre vie l'action de Dieu. C'est ça, pour moi, la plus grande preuve. Moi, je suis content de voir les évangiles, de lire la parole de Dieu, d'être béni par cette parole, mais je suis surtout content de l'avoir expérimenté, cette parole, d'avoir vérifié que c'était vrai dans ma vie. D'avoir vérifié que, par exemple, Jésus exauce la prière. S'il est ressuscité, il peut exaucer la prière de quelqu'un qui prie avec un cœur sincère. Je l'ai expérimenté. Voilà pourquoi je peux dire que Jésus est ressuscité. Et ce soir, j'aimerais tellement que chacun d'entre nous, nous puissions arriver à ce constat. Pour que ça soit le cas, on va lire dans Jean chapitre 20. Dans Jean, les deux derniers chapitres, on voit les trois fois, il y en a eu d'autres, mais il y a trois fois en particulier où Jésus, après la résurrection, s'est manifesté, s'est montré aux apôtres. Vous avez remarqué ça? Les trois fois se trouvent dans Jean chapitre 20 et Jean chapitre 21. D'ailleurs, au verset 14 du chapitre 21, il est dit « C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. » Et à chaque fois qu'il va se montrer, il y a quelque chose qui va se passer. Jésus va communiquer quelque chose. Il y a une rencontre. Ce soir, le titre de ce message, c'est « Venez rencontrer le ressuscité ». Parce que quand on le rencontre, celui qui est ressuscité, il y a quelque chose qui nous est communiqué. La première rencontre, c'est dans Jean chapitre 20, verset 19. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Les disciples, ils avaient besoin de la paix. Et la première chose, et vous remarquerez qu'à trois reprises, le Seigneur Jésus va dire cette parole, « Que la paix soit avec vous, parce que les disciples en avaient besoin. » Quand on voit dans quelle situation ils se trouvent, ils étaient dans un lieu où ils avaient tout fermé, les portes, parce qu'ils avaient la peur des Juifs. Et c'est sûr que dans le contexte de la mort de Jésus, la mort de ce Seigneur qu'ils avaient tellement servi, tellement aimé, tellement chéri, et qui était maintenant mort, décédé, et qui, pour eux, ils pensaient que c'était fini. Ils pensaient que tous leurs espoirs étaient totalement anéantis. Jésus se présente là, au milieu d'eux. Et la chose qu'il leur dit, « La paix soit avec vous. » Est-ce que c'est normal d'avoir peur ? Pour eux, à ce moment-là, oui, c'était normal. Peur des hommes. Peut-être qu'ils avaient un petit peu oublié les paroles de Jésus aussi. Mais quand même, on comprend. On ne peut pas regarder ce texte et juger les disciples. On pourrait se dire, mais nous, à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Est-ce qu'on aurait été meilleurs qu'eux ? Je ne pense pas. Ils étaient enfermés à double tour. La crainte des Juifs, surtout la crainte de mourir, je pense. Parce que s'ils tombaient entre les mains des Juifs, Qu'est-ce qui empêchait les Juifs de faire subir le même sort aux disciples que ceux qu'ils avaient fait subir à Jésus ? Rien. La crainte de la mort. Je crois qu'on est dans un monde où c'est une peur naturelle que d'avoir peur de la mort. Tout le monde, un jour ou l'autre, je crois qu'il n'y a personne qui peut dire « moi, j'ai jamais eu peur de la mort ». Tout le monde, un jour ou l'autre, est passé par ce sentiment. Et ça, c'est un sentiment qui est un petit peu normal parce que on a lu tout à l'heure qu'un jour, Jésus jugera le monde. Un jour, nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ et en fonction de ce que nous aurons fait de bien ou de mal, le Seigneur pourra nous donner la récompense ou pas de récompense du tout. Et c'est normal qu'on ait une certaine crainte, une certaine peur, d'autant plus quand on ne sait pas ce qui va se passer. Mais quand on connaît la parole de Dieu, on sait comment ça marche. On sait que Jésus, c'est le seul qui peut nous donner la paix avec Dieu, qui peut mettre cette assurance dans notre cœur qu'on peut être en paix avec Dieu. Comment est-ce que ça arrive ? Jésus, il explique par son attitude. Il leur dit « la paix soit avec vous ». Qu'est-ce qu'il fait juste après ? Vous avez vu ? « La paix soit avec vous » et après il montre ses plaies. La marque dans ses mains, son côté percé. Ce qui nous explique que on peut expérimenter la paix de Dieu quand on comprend la réalité du sacrifice de Jésus à la croix. Tout simplement. Quand on comprend cette réalité et quand on choisit de se repentir. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure aussi. Que les hommes doivent se repentir face au sacrifice de Jésus. Est-ce que Pierre, par exemple, il n'avait pas besoin d'expérimenter cette paix-là ? Parce qu'on sait que c'est au chapitre 21 que Jésus va venir voir Pierre et qui vont régler les choses. Mais Pierre avait besoin de cette paix avec Dieu. Quelqu'un un jour me disait « Ah, j'ai fait quelque chose et tout avait l'air de bien marcher, donc je crois que j'étais dans la paix. » J'ai dit « D'accord, mais est-ce que c'était la paix de Dieu ?»« Ah ben non, parce qu'en fait je désobéissais. » Mais tout marchait bien. Vous voyez, des fois on peut être totalement incohérent dans notre pensée, parce qu'on a l'impression qu'il y a le tapis rouge qui se déroule devant nous, ah, c'est la paix de Dieu. Mais non, la paix de Dieu, c'est quand on choisit d'obéir à la parole, quand on choisit, dans ce cas-là, de se repentir, de regarder aux souffrances du Seigneur, de regarder à sa main percée, à son côté percé, percé à cause de nous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous avez remarqué que souvent on essaye, nous, de convaincre les gens. Moi je parlais avec un monsieur encore hier, où j'essayais de lui montrer qu'il était pécheur. Mais combien c'est difficile, parce que c'est le travail du Saint-Esprit. Mais bien sûr, le Saint-Esprit doit se servir de nous, donc il faut travailler quand même dans ce sens. Mais c'est tellement... Des fois on voudrait montrer, oui, mais c'est vrai, vous n'avez pas volé, c'est vrai que vous n'avez pas tué, c'est vrai que vous n'avez pas fait ceci, mais vous avez menti. Et des fois les gens ont toutes sortes de raisonnements bizarres. Vous avez remarqué comment Jésus procède avec Pierre pour lui montrer qu'il est pécheur. Est-ce que Jésus, il vient en pointant du doigt en lui disant « tu as fait ceci, tu m'as renié devant les gens, tu as blasphémé, tu as fait des imprécations, etc. » Est-ce que Jésus vient faire ça devant Pierre ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui pose une question, « Pierre, m'aimes-tu ? » Et peut-être que c'est ce qu'on doit se poser comme question. Plutôt que de se demander quel péché on a commis, c'est de dire « Est-ce que dans toute la vie qu'on a vécue jusqu'à présent, on a montré à Dieu qu'on l'aimait ? Est-ce que notre vie a servi à montrer l'amour qu'on avait pour Dieu ? Ou est-ce qu'on l'a totalement délaissé cet amour ? Ignoré ? Ou être indifférent face à Dieu ? Alors si c'est le cas, ben là on est pécheur. Comprenez la différence ? Jésus, ce soir, veut nous dire que la paix soit avec vous. Je ne sais pas si vous sentez ce besoin. Alors, ça a été exprimé au travers des chants, qui est souvent il y a des inquiétudes, il y a des peurs par rapport à l'avenir. Jésus, lui, veut nous donner sa paix. Justement pour faire face à cette peur de l'inconnu, ce qui est devant nous. Quand on regarde notre société, on se demande ce qui va se passer, parce qu'on se demande quelle catastrophe va arriver encore. On ne se demande pas quelle bonne chose va arriver, on sait que ça va être quelque chose de difficile qui va se passer. Mais parce qu'on connaît le Seigneur, on a la paix. Les disciples, ils se retrouvent à un moment donné où ils étaient perdus, parce qu'ils n'avaient plus de but, ils n'avaient plus de sens à leur existence. Ils avaient trouvé Jésus, ils avaient servi le Seigneur, et puis il avait disparu, il était crucifié, puis enfoui dans le tombeau. Maintenant, ils croyaient qu'ils avaient perdu Jésus-Christ pour toujours. Et ils étaient en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? Et Jésus apparaît à ce moment-là. Et vous avez remarqué ce qu'il leur dit. Il leur dit donc, la paix soit avec vous, mais en plus il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il leur donne une mission. Il leur donne un but pour leur existence, le but d'être renvoyé par Jésus pour accomplir sa volonté. Quelle paix merveilleuse quand on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, quand on sait qu'on a cette approbation de Dieu dans notre vie. Il n'y a rien au monde qui peut égaler la paix que cela procure de savoir qu'on fait ce que le Seigneur nous demande. Le résultat, c'est qu'ils sont dans la paix, mais ils sont aussi dans la joie. Dès qu'ils voient le Seigneur, ils sont dans la joie, et il y a une joie particulière qu'on trouve dans la présence de Dieu, que ce soir on peut trouver, si on n'a pas la joie, si on n'a pas le bonheur, c'est la joie d'être sauvé. Vous avez vu ce verset qui est très mal interprété ? « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Les gens ont justifié au partir de ce verset pour dire « Ah, mais il y a certaines personnes qui ont le pouvoir de pardonner d'autres hommes. » Il y a certaines personnes qui peuvent absoudre les autres personnes. Mais ce n'est pas ça que ça dit. Si on regarde d'ailleurs de manière littérale, c'est dit ceci, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils auront déjà été pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils auront déjà été retenus. » C'est-à-dire que nous, on est juste les porte-parole de ce qui s'est déjà passé dans le ciel. Nous, on est juste les annonciateurs de la paix. Nous, on est de ceux qui doivent vivre la paix pour pouvoir après être les messagers de paix. Celui qui va procurer la paix, c'est quelqu'un qui l'a déjà expérimenté, cette paix. Et c'est ça, en fait. À la personne à qui on va dire, mais maintenant tes péchés sont pardonnés, parce que tu as demandé pardon à Dieu, parce que Dieu t'a pardonné avant. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Et c'est ça que ça veut dire. Oui, quand on est dans la volonté de Dieu, quand on accomplit ce que Dieu fait, quand on vit, quand on goûte à la paix de Dieu, on peut devenir ceux qui propagent la paix autour de nous. Est-ce que ce soir, vous avez besoin de paix, besoin de joie? Alors, ça tombe bien, le ressuscité est au milieu de nous. Jésus-Christ est ressuscité et il est celui qui communique ces choses. Il communique aussi la vie. Et la deuxième rencontre, c'est 8 jours plus tard, au verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, qu'est-ce qu'il dit ? La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui répondit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Jésus, le ressuscité, celui qui communique la vie. Et vous avez remarqué dans les paroles qu'on a lues tout à l'heure, quand il va au milieu des disciples, il fait quelque chose de particulier. Il souffle sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Est-ce que les disciples avaient besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu, de la part de Jésus en particulier, à ce moment-là? Je crois que si Jésus fait quelque chose, ce n'est pas au hasard. Je crois qu'ils avaient besoin de quelque chose, d'une vie nouvelle, dans le sens... Je crois qu'avant de connaître le Seigneur, certains étaient convertis. Je ne sais pas, pour tous, il y en a certains qui ont vécu une expérience particulière. Oui, mais il n'y avait pas eu encore l'expérience de la réalité de la croix. Et ce qu'ils avaient pu vivre au point de vue de la foi, c'était... quelque chose qui concernait l'ancienne alliance. Ils avaient besoin de quelque chose de nouveau, de vivre la vie nouvelle telle qu'elle était maintenant possible de par le fait que Jésus avait donné sa vie et qu'il était ressuscité. Celui qui souffle sur eux, c'était celui qui était ressuscité. Et quand Jésus souffle sur eux, je crois qu'il leur communique cette vie nouvelle. Je crois qu'il leur communique quelque chose de particulier. De la même manière que Dieu a créé Adam, vous savez qu'il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est ce qui se passe, mais transposé au point de vue spirituel, quand Jésus souffle sur ses disciples. Peut-être que certains avec une foi authentique, mais une foi de l'ancienne alliance, et il avait besoin d'avoir cette foi de la nouvelle alliance, cette foi de la nouvelle naissance, et ça s'est passé quand Jésus a soufflé sur eux. Qu'est-ce que c'est justement cette nouvelle expérience qu'ils ont besoin de vivre ? C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans leur cœur. L'Esprit de Dieu qui fait la demeure en eux. Est-ce que c'est possible ? Oui. Et Jésus nous le montre au travers de l'exemple de Thomas. Thomas, lui, il n'y était pas quand il a soufflé Jésus. Et Jésus lui explique un peu plus. Tu veux cette vie nouvelle, en quelque sorte. Il faut que tu crois. Il faut que tu aies la foi. Quelqu'un va me dire, mais oui, mais moi j'ai la foi. Moi, je crois. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant, par contre. La Bible nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Si votre foi n'a pas les œuvres qui vont avec, elle est morte. Et il y a besoin, vous avez besoin de la vie de Dieu. Que la vie de Jésus-Christ puisse couler en vous. Pour quelqu'un d'autre va me dire, mais moi par contre, je fais beaucoup d'œuvres. Moi, je vais à l'église tous les jours, je lis ma Bible tous les jours, j'écoute des messages, etc., etc. D'accord. Bon, c'est bien en soi. Mais est-ce que ce sont vos œuvres? Est-ce que ce ne sont pas des œuvres mortes? Vous savez ce que c'est les œuvres mortes? Ça dépend en fait de la façon dont on fait les choses et de quand on fait les choses. Je vous explique. Si vous faites les choses avant que votre cœur ne soit lavé par le sang de Jésus, tout ce que vous faites avant ce moment-là dans votre vie, c'est des œuvres mortes. Même le bien que l'on peut faire, même d'offrir sa vie en sacrifice, mais si mon cœur il n'a pas été lavé par le sang de Jésus, c'est des œuvres mortes. Autre chose. Si je fais des œuvres parce que je le fais dans un mauvais but, par exemple, certains vont à l'église, mais parce qu'ils croient qu'en allant à l'église, ils obtiennent leur salut comme ça, ils font des œuvres dans ce motif de gagner leur salut, c'est des œuvres mortes. Et dans cette situation-là, il y a besoin aussi que la vie de Dieu soit communiquée. La Bible nous dit « renoncer aux œuvres mortes ». Thomas, qui a rencontré le Seigneur Jésus, qui a vécu cette expérience particulière, il entend cette recommandation « ne sois pas incrédule, mais crois ». Regardez avec moi au verset 31. L'apôtre Jean qui écrit ces passages, qui écrit de mémoire, aidé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, il a noté ceci, un petit peu pour conclure ce passage. « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ ». Le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez quoi? Vous ayez la vie, en son nom. Par la foi, je peux avoir la vie. Par la foi véritable, la foi authentique, la foi qui obéit, je peux avoir la vie. Est-ce que ce soir, vous n'avez pas besoin de cette vie? Je crois que pendant que Jésus s'est présenté au milieu d'eux, il y en a certains qui se sont dit, mais oui, mais moi, j'avais la foi que dans ce côté physique de Jésus. Pendant 3 ans, ils ont vécu avec le Seigneur Jésus. Il était au milieu d'eux. Il a fait des miracles. Ils ont vu des choses extraordinaires, ces disciples. Mais leur foi n'était attachée que à ce côté physique et visible du Seigneur Jésus. Et Jésus leur dit, il faut que vous ayez la foi. Il faut que vous développiez la foi pour que je puisse déverser ma vie en vous. Et la troisième rencontre, elle se trouve dans le chapitre 21, premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette lune-là, ils ne prirent rien. On imagine la situation, on imagine ces disciples qui, alors que l'aurore est en train de se lever, ils sont là, épuisés par une nuit de travail, frustrés parce que tout ce travail n'a servi strictement à rien, et ils sont tiraillés par la faim parce que le travail ça creuse, et eux, les pêcheurs expérimentés, ils se disent « mais est-ce qu'on n'a pas perdu la main ? Est-ce qu'à force de suivre Jésus, on n'a pas oublié ce que c'était que de pêcher ?» Et ils étaient là en train de batailler. Et Jésus se présente, Jésus le ressuscité, choisit de se présenter à ce moment-là pour les voir. Au verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Ils ont reconnu, parce qu'il y a eu un miracle, que Jésus est intervenu. Jésus le ressuscité, oui, il veut donner la paix, oui, il veut donner sa vie, mais il veut aussi communiquer son amour. Ce soir encore, c'est ce qu'il veut nous communiquer, c'est ce que Michael nous rappelait tout à l'heure. Jésus est là prêt à nous déverser son amour si nous ouvrons notre cœur. Vous avez vu la question qu'il leur pose, n'avez-vous rien à manger ? Des fois, c'est Jésus qui nous pose des questions dans nos cœurs. Des fois, c'est à nous de lui poser la question, de dire « Seigneur », ou lui dire plutôt de prier « Seigneur, tu connais mon besoin, tu vois ce dont j'ai besoin ce soir. Tu sais ce dont je manque. Tu sais, Seigneur, ce qui ne va pas. » Est-ce que vous croyez que l'amour de Jésus est limité pour ne pas pouvoir répondre à votre besoin ? Je crois que l'amour de Jésus, c'est un amour qui bénit. On voit dans ce passage. Est-ce qu'ils avaient besoin de 153 poissons pour manger ? Non. Et pourtant, Jésus leur a permis de pêcher 153 grands poissons. En plus, on a le détail exact. C'est-à-dire que quand Jésus bénit, il le fait avec abondance. Quand Jésus bénit, il le fait avec richesse, sa richesse, la richesse de son amour. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux être béni ? Et on voit que quand Jésus leur a dit « jetez de l'autre côté », ils n'ont pas cherché à comprendre, ils n'ont pas réfléchi aux stratégies de la pêche, etc. Comment est-ce qu'il faut pêcher ? Ils ont dit « ok, on le fait ». Obéir à la parole. Est-ce que vous voulez être béni ? Obéissez à la parole. Est-ce que vous voulez être béni ? Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus vous a promis. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, ce passage ? Pour vous, peut-être non. Mais pour eux qui ont vécu, pour l'apôtre Pierre en particulier et l'apôtre Jean, eux qui avaient vécu déjà ce miracle quasiment de la même manière, ça leur rappelait que le Seigneur Jésus avait fait une promesse. Pierre avait entendu cette parole. « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Et alors qu'il y a ce miracle qui arrive, j'imagine Pierre qui est en train de réfléchir à ce qui se passe et en train de se rappeler des paroles de Jésus et en train de se dire « Mais oui, Jésus m'a dit que je serais un pêcheur d'hommes et moi j'en suis encore au stade de pêcher des poissons. » Mais parce que Jésus l'aime, parce que Jésus veut prendre soin de lui, il lui rappelle cette expérience pour lui rappeler aussi quelle est sa mission. Parce que le Seigneur Jésus veut le bénir. Et quand on voit la suite, quand on voit l'acte chapitre 2, la façon dont Pierre est devenu un pêcheur d'hommes, on pense qu'il a bien réagi, on pense qu'il a fait ce qu'il fallait, il a ouvert son cœur à l'amour de Christ. Et d'ailleurs, le passage dont on parlait tout à l'heure, c'est que Jésus lui demande, est-ce qu'il aime ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'avant que Pierre l'aime, que Jésus l'aime d'abord ? C'est sous-entendu. Pierre, m'aimes-tu ? Mais Jésus, il pourrait dire, mais moi, je t'aime avec un amour infini. Mais toi, est-ce que tu m'aimes en retour ? Comprenez ? Comment être béni ? En reconnaissant dans nos vies la main du Seigneur. Il y a des fois des gens qui ont vécu des bénédictions, des guérisons. Il y a des histoires incroyables que j'ai entendues il n'y a pas longtemps encore, où personnes qui ont vécu des choses, des maladies incurables et qui se sont relevées. Les médecins, ils ont sursauté tellement c'était fou. Et la personne n'a même pas reconnu la main de Dieu. Ou l'a reconnu le jour même, mais l'a totalement oublié depuis. Et la même personne qui vit des années après son petit-fils qui est totalement malade, quelque chose de grave, elle a oublié que le jour où il a été guéri, on avait prié la veille pour elle, pour cet enfant. Et quand on en reparlait avec elle, elle disait, ah oui, mais je ne m'étais même pas rendu compte. Des fois, on ne se rend pas compte de la main de Dieu qui bénit. Mais c'est vrai, parce que Jésus est ressuscité. La main percée du Seigneur, la main qui a été clouée pour nous, elle est capable de guérir, parce que Jésus est ressuscité. Ce soir, je voudrais terminer avec cette question. Est-ce que nous voulons rencontrer le ressuscité ? Même nous qui le connaissons, est-ce qu'on en a assez ? Est-ce qu'on a assez de toutes les grâces que le Seigneur veut communiquer ? Ou est-ce que ce soir, on ne pourrait pas dire, mais oui Seigneur, j'ai besoin. Peut-être que j'ai baissé dans ma joie. Il y a des moments dans nos vies où la joie du salut, elle ça bouge. Malheureusement, il y a des épreuves qui sont là, le doute qui voudrait peut-être s'installer, et la joie du salut qui en prend un coup, Est-ce que ce n'est pas l'occasion ce soir de dire, Seigneur, toi qui es le ressuscité, toi qui es présent dans ce lieu par ton esprit, tu veux me communiquer ta joie, tu veux me communiquer ta paix, tu veux me communiquer ton amour, ta vie, peu importe ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus est celui qui pourvoit. Il a permis qu'il puisse pêcher 153 grands poissons, mais c'est lui qui a préparé le repas malgré tout. Bien sûr, il a dit apporter quelques autres poissons de plus, mais il y avait déjà des poissons qui cuisaient, il y avait déjà du pain, il avait fait un feu. Quand le Seigneur Jésus prend soin de nous, il le fait bien. L'amour de Jésus, c'est un amour qui prend soin de ses enfants. Alors on va fermer nos yeux et réaliser, peut-être le réaliser avec force, comme on ne l'a jamais réalisé, que le Seigneur Jésus est là au milieu de nous, que le grand Seigneur qui est ressuscité, il est présent au milieu de nous par son esprit. Les trois fois où Jésus s'est manifesté à ses disciples, il leur a communiqué quelque chose. Et je sais que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que si Jésus se manifeste au milieu de nous ce soir par son esprit, il va nous communiquer quelque chose. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin de paix? Vous êtes peut-être chamboulé par toutes les choses qui arrivent dans notre monde. Oui, il y a des bruits de guerre, oui, il y a des catastrophes, oui, il y a des personnes qui sont dans des folies meurtrières. Et c'est vrai que tout cela doit nous inquiéter. Mais c'est vrai qu'en Jésus, nous pouvons trouver cette paix. Mais nous pouvons même trouver une paix encore plus grande. C'est la paix de celui qui a demandé pardon pour son péché. Ce soir, si quelqu'un est dans ce cas, par la grâce de Dieu, pas par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu et par la foi, nous pouvons trouver la paix avec Dieu. En nous repentant de notre péché, nous pouvons être pardonnés et marcher dans l'approbation de Dieu, avoir dans notre cœur le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes l'enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaye de construire, ce n'est pas quelque chose qu'on essaye de se convaincre, mais c'est une vérité qui est là au fond de nous. Quelle grâce quand on peut vivre ces choses. Quelqu'un peut-être ce soir vit une foi, mais une foi qui est morte. Sa foi, elle n'apporte rien dans sa vie. Sa foi, elle ne débouche dans rien de concret. Ça, ce n'est pas la foi qui vient de Dieu. Ça, c'est une foi qui est morte. Et vous avez besoin de recevoir la vie de Dieu. De faire comme Thomas. Thomas s'est rendu compte de son erreur. Il a dit « Mon Seigneur ». Il a dit à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que ce soir, vous êtes prêt à dire à Jésus qu'il est votre Seigneur et qu'il est votre Dieu, qu'il est celui qui va diriger maintenant votre vie? Est-ce que ce soir vous êtes prêt à vous convertir, à vous tourner vers Jésus-Christ et à faire de lui le maître de votre vie? Alors, si c'est le cas, demandez-lui tout simplement, et le Seigneur déversera sa vie abondante. Est-ce que vous avez besoin d'amour? Est-ce que vous avez besoin que le Seigneur puisse vous bénir dans une situation particulière? Trouver un travail, être guéri dans votre corps. Et combien nous savons que le Seigneur est capable de pourvoir dans tout cela. Mais la condition, c'est que nous puissions marcher dans l'obéissance. Celui qui m'aime, il garde ma parole, il a dit le Seigneur. Posez-vous cette question que Jésus a posée à Pierre. M'aimes-tu? Si Jésus vous faisait cette question ce soir, vous la posez, qu'est-ce que vous lui répondriez? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses dans nos vies qui, c'est vrai, qui ressortent et qui nous montrent qu'on n'a pas tenu cas du Seigneur, de sa parole, qu'on n'a pas écouté ses conseils? Alors demandez pardon et recevez ce soir sa grâce abondante, son amour, parce qu'il est là au milieu de nous. Merci Éternel. Merci parce que tu es le ressuscité. Merci parce que nous croyons sans te voir, Nous croyons que tu es au milieu de nous par ton esprit, Seigneur. Nous croyons que ta main percée est étendue dans ces instants, au-dessus de nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir de toi ce que tu veux nous communiquer, ta paix, ta joie, ton amour, ta vie, tes grâces abondantes, Seigneur, qui coulent d'en haut, qui viennent d'en haut du ciel, Seigneur. Dans ces instants, tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Viens répondre en toute simplicité, toi qui sais lire même les prières intérieures, même la prière, la voix des larmes, Seigneur, dans ces instants. Entends la prière, Seigneur, et viens répondre avec ta façon de faire, Seigneur, la bénédiction qui accompagne celui qui croit en toi. Merci, Jésus. Oui, parce que tu es ressuscité. Nous te louons de tout notre corps dans ces instants. Amen.